Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 18h en direct. Vous ne raterez rien de cet après-midi boursière aux États-Unis comme en Europe où c'est la baisse qui l'emporte. Beaucoup de publications, elles sont plutôt arbitrées négativement quand même en l'occurrence. Aujourd'hui, on va en parler bien sûr avec l'ensemble de nos experts. Stellantis, Étienne va beaucoup nous en parler de Stellantis tout au long de l'après-midi. C'est la lanterne rouge aujourd'hui du CAC 40, effectivement. On parlera également. Non, il dit non. Et si, on va en parler quand même parce qu'il y a de quoi dire effectivement sur Stellantis. On parlera également de Capgemini, à ne pas rater. Eric Blaine sera avec nous. La bourse cache dans quelques minutes. Il veut voir le verre à moitié plein sur Capgemini. Il nous expliquera pourquoi il estime que ce titre Capgemini doit désormais être renforcé dans les portefeuilles. La bourse cache 15h40. Mais d'abord, il est 9h30 à New York. C'est l'ouverture de Wall Street en direct. Et USA Today, nos deux experts, John Plassard. Bonjour John, depuis vos bureaux de Mirabeau. Ravi de vous retrouver. Étienne aussi avec nous. Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne, content aussi de vous voir Étienne. Comment ça se passe cette ouverture aux États-Unis aujourd'hui?
Et bien après une séance de haussière, vous avez Wall Street qui ouvre dans le rouge avec trois indices américains qui sont en léger repli, notamment en ce qui concerne l'indice Nasdaq qui sous-performe un petit peu, -0,5%, -0,4% pour l'indice Dow Jones, quand le S&P 500 de son côté perd 0,3%. Dernière séance du mois, donc ça sera une séance importante. Pour l'instant, les compteurs sont négatifs pour le mois d'avril avec trois indices américains qui perdent entre 2,4% pour le Nasdaq et 3,5% pour l'indice Dow Jones. Dans un instant avec John, nous allons parler des grandes publications du jour, Coca-Cola, McDonald's qui déçoit les investisseurs, mais à l'inverse, son concurrent Burger King et sa maison mère Restaurant Brands International gagnent du terrain avec des résultats supérieurs aux attentes. La valeur gagne 1,5%. Dans les valeurs cycliques, vous avez 3M qui surprend avec notamment des résultats supérieurs aux attentes, des hausses de prix et puis un groupe qui est confiant pour les prochains mois. La valeur gagne un peu plus de 2,8%. PayPal de son côté gagne plus de 3%. Le groupe avait largement déçu ces derniers mois là, mais visiblement vous avez une tendance qui s'inverse, plus 3,8% pour PayPal à la porte des $70. Et puis à l'inverse, c'est très compliqué pour une valeur pourtant défensive dans le secteur de la santé, c'est GE Healthcare avec notamment un groupe qui est spécialisé dans les scanners, et alors là c'est très compliqué, la valeur perd un peu plus de 7%. Voilà donc pour les principales publications du jour, avant bien sûr Apple jeudi, demain la Fed et puis Amazon qui publiera ses résultats ce soir. En attendant, vous avez trois indices américains qui sont en léger recul dans les premières secondes de cotation.
Effectivement. Alors, l'inflation, tout le monde la surveille. John, on a ici en Europe une bonne nouvelle. L'inflation qui ralentit même dans les services désormais. Le chiffre de ce matin est très, très encourageant. En revanche, aux États-Unis, c'est un peu moins bon. Le coût de l'emploi rebondit au premier trimestre.
Oui, tout à fait. Ça se complique un peu. On a le coût de rémunération des travailleurs civils qui a augmenté de 1,2% au premier trimestre, alors que au dernier trimestre de 2023, on était à 0,9%. Il faut rappeler ici que les coûts de l'emploi ont augmenté le plus en un an. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui aux États-Unis. Mais on a eu une autre nouvelle, Guillaume, sur l'inflation, et notamment l'inflation au niveau de l'immobilier. Vous savez que l'immobilier est très, très important lorsqu'on calcule le PCI aux États-Unis. Et on a appris que le prix moyen des maisons individuelles aux États-Unis a progressé de 1,2% en février. C'est la plus forte hausse depuis avril 2022. Alors, faire attention ici avant la réunion de la Fed, parce que les dernières indications sur l'inflation traduisent une certaine surchauffe.
Et justement, ce mot qui nous occupera au cœur de cette semaine, la Fed, les membres de la Fed commencent d'ores et déjà à se réunir, Étienne.
Ah oui, avec un communiqué qui sera publié demain à 20h, conférence de presse à 20h30. John Plassard, qu'attendez-vous de cette conférence de presse? Alors, bien évidemment, il n'y aura pas de décision demain, mais les investisseurs vont essayer d'en savoir plus sur la stratégie de Powell.
Tout à fait. Alors évidemment, le maître mot, ça va être l'inflation. On a eu les chiffres dont on vient de parler. On a eu les chiffres du PCE la semaine passée qui ont montré que l'inflation était largement au-dessus des 2% targetés par la Réserve fédérale américaine. Et il faut se rappeler que la première fois que la Réserve fédérale américaine a monté ses taux en 2022, eh bien, elle avait prévu que les États-Unis, eh bien, devraient rentrer en récession pour que la demande baisse. On voit bien, évidemment, aujourd'hui qu'on n'est pas en récession aux États-Unis. On voit que la demande est toujours là. Le consommateur américain est toujours là. Donc, évidemment, la bataille, ça ne va pas être de savoir si les taux vont augmenter en juin prochain, en juin prochain, mais plutôt de savoir s'ils vont baisser cette année. Parce que vous le savez, Étienne, de plus en plus, on a le consensus qui est en train de s'aligner sur une baisse, voire zéro baisse de taux cette année. Donc évidemment, on n'attend rien, mais c'est tout ce qu'on appelle en anglais le wording, ce que va nous dire exactement Jérôme Powell, qui va être surveillé comme le lait sur le feu. Et bien évidemment, en même temps, on regardera le dollar et le rendement des treasuries aux États-Unis.
Oui, la Fed demain soir et cette divergence croissante à venir entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, puisqu'on le disait parallèlement en Europe, au contraire, l'inflation continue de plus en plus d'ailleurs de ralentir. C'est bien qu'on imagine peut-être un cycle de baisse de taux s'enclencher dès le mois de juin. On en parlera tout à l'heure avec Frédéric Ducrozet, l'un des meilleurs spécialistes justement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Le 10 ans américain, lui, progresse. Oh, tension, 4,67 sur le 10 ans américain cet après-midi. Et sur le front électoral, on avance dans la campagne. On est à 191 jours maintenant de cette présidentielle aux États-Unis. Et la campagne, grâce à vous, John, on la vit chaque après-midi dans BFM Bourse en direct. Vous allez nous parler de Robert F. Kennedy. Il inquiète de plus en plus Donald Trump.
Oui, ça peut paraître assez improbable parce que, vous savez, selon le dernier sondage, eh bien, alors vous savez, il y a beaucoup de sondages, mais le dernier sondage qui est paru ce matin, on voit que Trump et Biden seraient à égalité, 43% de soutien pour chacun, et que Kennedy serait seulement à 3% des voix. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que Trump s'inquiète et pourquoi est-ce que Trump de plus en plus traite Kennedy avec des noms d'oiseaux que je n'oserais dire aujourd'hui? Mais tenez-vous bien, c'est parce que selon d'autres sondages, plus de 70% des personnes qui votent pour Kennedy voteraient, tenez-vous bien, pour Biden s'il devait voter pour l'un ou l'autre des candidats. Donc qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que si les deux protagonistes sont à égalité, eh bien les voix, même s'il est à 3%, les voix de Kennedy sont de plus en plus importantes. C'est pour ça que Trump s'énerve contre Kennedy et on va voir cette bataille, ce mano à mano continuer ces prochaines semaines.
Wall Street a ouvert il y a maintenant 8 minutes. On est ensemble en direct, 9h38 à New York, 15h38 ici à Paris. Le S&P 500 perd 0,3%, le Nasdaq perd 0,4%. Étienne, vous nous le disiez, cette bataille intéressante aujourd'hui entre d'un côté les grands acteurs de l'alimentaire, alors très très grand public, McDo, Coca-Cola, et puis de l'autre l'anti-obésité et les médicaments avec Eli Lilly qui aussi a publié. On parlera d'Eli Lilly dans un instant. Mais d'abord, McDonald's, comment le titre réagit-il à la publication aujourd'hui?
Mal, puisque c'est de loin la plus forte baisse du Dow Jones, avec une valeur qui perd 2% aujourd'hui à $268. Des résultats qui étaient très attendus, John Plassard, parce que historiquement, dans cette période d'inflation, c'est un groupe qui résistait plutôt bien, mais là, au premier trimestre, ça coince.
Oui, tout à fait. Alors, si on regarde les résultats, vous savez, comme à chaque fois, presque des grands groupes américains qui ont publié, les résultats sont au-dessus des attentes. Un bénéfice de 1,9 milliard pour les trois premiers mois de l'année. On a aussi des ventes mondiales qui ont augmenté de 1,9%. C'est le 13e trimestre consécutif de croissance. On a aussi un chiffre d'affaires qui est en hausse de 5%. Mais, et c'est là la question, on voit une croissance aux États-Unis qui est en train de ralentir. Et tenez-vous bien, le boycott qui a eu lieu au Moyen-Orient après, bien évidemment, la crise avec Israël et Gaza, de plus en plus commence à marquer. On voit les ventes au Moyen-Orient qui baissent nettement plus qu'attendu. Donc d'un côté, la baisse de la croissance aux États-Unis et d'un autre, le boycott au Moyen-Orient qui marque les ventes de McDonald's. Donc assez décevant de ce côté-là.
Effectivement, ce titre qui donc aujourd'hui est sanctionné. Puis une autre valeur, Coca-Cola, qui a aussi publié. Qu'est-ce que ça donne, John?
Bah écoutez, ce qui est assez intéressant une nouvelle fois, c'est que Coca revoit à la hausse ses prévisions de vente annuelle, notamment pour ses produits biologiques. Alors vous allez me dire, produits biologiques pour Coca-Cola, c'est assez étrange, mais vous savez que face notamment à la malbouffe, eh bien Coca-Cola commence à se diversifier sur les sodas qui sont moins sucrés et aussi sur les jus de fruits qui sont normalement des jus de fruits qui coûtent plus cher et où il y a de très fortes marges. Donc ici, le groupe s'attend à des ventes biologiques pour cette année en augmentation de 8 à 9%, alors qu'avant, on avait une fourchette qui était entre 6 et 7%, donc c'est nettement mieux. Mais, encore une fois, il y a un mais, eh bien, les devises, eh bien, portent sont des vents contraires sur les ventes de Coca-Cola. Et c'est pour ça que ça déçoit aujourd'hui à cause d'un dollar beaucoup trop fort.
Effectivement, ce titre est en baisse. Alors, Coca-Cola relève ses prévisions. Il se trouve, Étienne, donc on a ce match aujourd'hui avec les médicaments anti-obésité. Ben voilà, l'un des principaux fabricants mondiaux annonce aussi ses résultats. Eli Lilly aussi relève ses prévisions, Étienne.
Avec un titre qui s'envole de plus de 5%, qui repasse d'ailleurs devant TSMC. 9e capitalisation mondiale, Eli Lilly, avec plus de 740 milliards. John Plassard, rien n'arrête ce titre qui est quasiment sur un record historique aujourd'hui à $780.
Ouais, c'est assez fou, surtout que la société a relevé notamment ses bénéfices par action de $1,30 et de $2 milliards pour les revenus cette année. Donc on voit qu'il y a une demande accrue. On sait très bien, et ça a été dit lors de la conférence de presse, qu'il y a énormément de demandes et que la société n'arrive pas à fournir assez de médicaments. Alors évidemment, l'entreprise a été tirée par les médicaments phares, notamment les médicaments phares sur l'anti-obésité, le Zepbound, le Mounjaro et le Jardiance, mais aussi par un produit qui est contre le cancer du sein, qui s'appelle Verzenio, qui lui aussi a eu des ventes nettement supérieures aux attentes. Donc on voit que dans ce match contre la malbouffe, eh bien, Eli Lilly arrive en tête. Hein. On sait qu'avec Novo Nordisk, ils sont les seuls là-haut à lutter contre l'obésité.
John Plassard avec nous, c'est USA Today chaque après-midi. Merci beaucoup, John, depuis au bureau de Mirabeau. Étienne nous accompagne aussi depuis la Tour Euronext tout au long de l'après-midi. Vous n'hésitez pas, Étienne, bien sûr, à nous interpeller. Le CAC 40 est en ce moment en repli, toujours un petit repli, rien de très méchant. Pour terminer, ce mois d'avril pluvieux sur les marchés. Le bilan de ce mois d'avril est négatif. On perd plus d'un et demi pour cent sur le marché parisien depuis le début du mois d'avril. Et c'est pas la séance du jour qui arrangera les choses. On perd encore 0,5% supplémentaire avec des publications plutôt négativement arbitrées, en l'occurrence. Aujourd'hui, on va en parler bien sûr. Et puis dans quelques minutes, notre portefeuille trading BFM Bourse, ce sera vers 15h50. On appellera Alexandre Tixier qui nous dira effectivement quel potentiel il voit sur le CAC et sur un certain nombre de valeurs. Les alertes aussi qu'il partage auprès de ses abonnés. Ce sera donc à retrouver, le portefeuille trading, aux alentours de 15h55. Auparavant, la Bourse Cash. Éric Blaine nous accompagne, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Bonjour Éric. Ravi de vous retrouver. Vous voulez dire aujourd'hui, Éric, leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr ?
Absolument, j'en suis sûr.
Vous venez pousser, Éric, aujourd'hui un véritable ouf de soulagement sur les résultats de Capgemini. Vous jugez le cours de Capgemini même attractif. Vous l'assumez ?
Absolument aussi, je l'assume.
Un ouf de soulagement sur les résultats de Capgemini. Alors que les chiffres sont en repli et vous dites que vous l'assumez. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, le fait que vous soyez si soulagé par les résultats de Capgemini qui quand même recule? L'arbitrage du marché, lui, est négatif. Le titre perd plus de 2% cet après-midi, Éric.
Absolument. Hein. On a une publication avec un recul de 3,6% à périmètre comparable du chiffre d'affaires. Le consensus est à moins 3,8%. Et ce que je trouve agréable, quelque part dans ces chiffres, c'est que, c'est plutôt en ligne avec les attentes, comme on vient de le voir. Et donc, les inquiétudes des investisseurs étaient extrêmement importantes après le profit warning d'Accenture et les quelques publications précédentes qui avaient laissé quand même un mauvais goût aux investisseurs. Là, on a quand même un premier trimestre qui est en ligne, une guidance annuelle qui est maintenue, et globalement, un ton dans le communiqué sur ces perspectives qui est également positif. Moi, j'ai apprécié le fait de pouvoir lire dans le communiqué que le premier trimestre est avancé comme le point bas, avec une reprise modérée tout au long de l'année. Et donc, même si le deuxième trimestre devrait aussi rester donc faible, on s'attend à ce que la croissance redevienne positive à partir de septembre, pour une croissance plus vigoureuse à partir du quatrième trimestre de l'année 2024 et 2025. Donc, on est à un point bas. On n'a pas de mauvaises surprises sur cette publication. On a un communiqué qui reste positif. Et puis, en termes de métier, on sait à quel point Capgemini est engagé dans le numérique et le cloud, donc l'intelligence artificielle au global. Et là, on voit dans la division stratégie et transformation qu'il y a une croissance de 1,6%. Et ça, c'est quand même très positif pour tout ce qui est demande des entreprises sur l'intelligence artificielle générative. Donc oui. Moi, je suis plutôt rassuré après la baisse du titre et ça m'inciterait plutôt donc à revenir sur les cours actuels.
Le discours de Capgemini, c'est vrai, est encourageant. Ils disent observer également des signes de reprise en Amérique du Nord. L'effet de base au deuxième semestre sera aussi beaucoup plus favorable manifestement pour Capgemini. Et pourtant, le marché, lui, n'achète pas. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, vous dites tant mieux, ça fait un point d'entrée pour vous. Enfin, vous dites que voilà, ce titre Capgemini, il est sous-coté, il mériterait de rebondir nettement. Pourquoi le marché ne partage pas ce point de vue aujourd'hui, d'après vous, Eric?
Je pense que sur la communication en tant que telle, on a encore un deuxième trimestre qui va rester en petit recul. Donc, ça fait maintenant trois trimestres qu'on a, donc depuis l'été 2022, qu'on a des décélérations de croissance organique. On est passé en négatif au quatrième trimestre. Au premier trimestre, la croissance négative s'accélère. Et au deuxième trimestre de l'année 2024, on va certainement tourner autour de zéro. Et donc, je pense que le ton encore mitigé du management fait que en ce moment on est un petit peu en train de prendre des profits sur les valeurs de croissance et donc ça entraîne le marché à être prudent. Mais justement, je pense que c'est des bons points d'entrée pour se réintéresser à ce titre qui vient quand même de 227. Là on s'approche des 200 €, je trouve que ça commence à être des points intéressants. On est sur des PER donc qui sont de 15,4 fois 2025, donc c'est au moins un point de moins que les 10 dernières années, alors que la croissance devrait s'accélérer sur le deuxième semestre. Moi, je trouve que c'est les moments de regarder.
Et ben voilà, le message est dit. Il y en a beaucoup, des publications. Etienne nous appelle, la Tour Euronext, 15h47. Effectivement, c'est l'une des nombreuses baisses du jour, Capgemini, et notre CAC 40 qui, du coup, est emporté globalement. On a un CAC 40 qui termine ce mois d'avril pluvieux, encore sous la pluie aujourd'hui, Etienne.
Oui, très clairement, avec un indice qui essaye néanmoins depuis l'ouverture de Wall Street de grappiller quelques points, mais que c'est compliqué. Moins 0,6% à 15h30, moins 0,5% à l'instant. Les 8000 points qui sont à nouveau en danger. 8024 points pour l'indice parisien. Alors c'est du rouge aux États-Unis, on l'a vu à l'ouverture. C'est du rouge également pour le DAX qui perd 0,5 ou encore l'Eurostox qui perd 0,6. Secteur automobile qui est plombé aujourd'hui par Stellantis qui perd quasiment 8%. Vous avez Volkswagen et Mercedes également qui sont en baisse à Francfort. Et puis, dans le même temps, il n'y a pas vraiment de relais à la hausse aujourd'hui. Certes, certaines valeurs défensives tentent de surnager, mais il n'y a pas de gros mouvement avant, bien sûr, une séance de pause demain avec la Fed demain soir. Et puis aussi, quelques publications qui sont attendues dans les prochains jours, mais les grosses pondérations ont d'ores et déjà publié. Néanmoins, il sera intéressant de suivre Téléperformance qui publiera ses résultats. Ça sera ce soir après la clôture.
Effectivement, puis aux États-Unis, Amazon, à ne pas rater après la clôture de Wall Street ce soir. Eric, Étienne le disait à l'instant, -7,5 ce titre Stellantis aujourd'hui. Alors c'est quand même le carton depuis le début de l'année, Stellantis, Renault, les deux cartons sur le CAC depuis le début de l'année. Mais là, d'un seul coup, un petit revirement à -8. On peut même parler d'un revirement qui devient un peu sérieux. Est-ce que pour vous, voilà, la dynamique du début d'année est mise en cause sur un groupe comme Stellantis et puis Renault aussi qui est emporté à -5,5 cet après-midi?
Oui, c'est quand même très dur dans ce secteur-là. On sait bien, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur la présence de la Chine en Europe et la pression sur les prix que avec l'exportation d'une déflation, avec des producteurs qui n'hésitent pas donc à produire et à exporter. Donc on parle en Europe d'augmentation de droits de douane sensibles pour protéger les acteurs européens. Donc on est dans cette période difficile, faut bien reconnaître. L'acteur qui me semble le plus fort, c'est clairement Stellantis, notamment parce qu'il n'est pas en Chine, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et puis parce qu'il a toujours été extrêmement réactif en termes de management et il fait plus attention donc aux marges qu'au volume. Alors là, il y a une petite indication dans ce premier trimestre qui est de dire qu'il y a une pression sur les marges. Donc ça, évidemment, ça ne plaît pas au marché, c'est pas surprenant. Mais je pense que le guidance sont réitérés et qu'on peut faire confiance au management pour justement donc pouvoir donc conserver des marges élevées supérieures à 10% et avoir une belle vision sur son modèle. Donc On savait que les volumes seraient faibles sur ce premier trimestre, hein. On s'y attendait. Le premier trimestre a jamais été très fort pour Stellantis. Donc en allant donc maintenant avec après cette publication, on va vers le Capital Market Day. Je trouve que ça va être intéressant. Et donc le repli des cours est intéressant. Alors on n'a pas acheté aujourd'hui, hein, mais clairement ça nous semble intéressant. Pour ceux qui ne sont pas positionnés sur Stellantis, de reprendre position et nous-mêmes, il n'est pas impossible qu'on remonte donc nos expositions sur le titre.
Bah pourquoi pas. En tout cas, des effets de déstockage aussi qui, avant l'arrivée des nouveaux modèles, pèsent sur la performance du premier trimestre et notamment en Europe. Petite déception sur l'Europe particulièrement. Effectivement, Stellantis qui recule de quasiment 8%. Et justement, vous parliez de la Chine, de la concurrence sur les prix, c'est notre question sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Chacun peut s'y abonner. Cette question qu'on vous pose aujourd'hui, parmi les nombreux constructeurs automobiles qui publient en ce moment et particulièrement aujourd'hui, lesquels parviendront à préserver les tarifs de leurs véhicules? Est-ce que ce sera Mercedes qui justement dit vouloir maintenir le prix de ses véhicules et ne pas entrer dans une guerre de prix? Donc est-ce que ce sera Mercedes? Est-ce que ce sera Stellantis? Est-ce que Volkswagen parviendra à préserver ses tarifs ou Renault? Vous êtes nombreux à voter. N'hésitez pas à nous laisser également vos arguments en commentaire. Pour vous, Eric, lequel de ces constructeurs sera le plus à même de, oui, préserver ses tarifs à l'avenir malgré la concurrence chinoise?
Ben comme je le disais, hein, je ferai confiance à Stellantis et ensuite pour sa gamme effectivement et la communication du management, je suivrai Mercedes. Je pense que ils ont la capacité et la marque et les produits hein, pour maintenir en fait des prix élevés et se permettre en fait de perdre en volume pour conserver leur marge.
Et puis il y a un autre match aujourd'hui du côté des publications, c'est dans la nutrition. On le disait, McDonald's et Coca-Cola publient leurs résultats, Starbucks aussi. Puis en face, les pilules coupe-faim, les anti-obésité, et Eli Lilly qui fabrique ces médicaments anti-obésité aussi publie. Voilà, c'est le hasard des agendas. Hasard ou pas d'ailleurs. C'est intéressant. C'est vraiment aujourd'hui le match qu'il faut suivre et cette bataille. Donc à ma droite, McDo, Coca et Starbucks. À ma gauche, Eli Lilly. Pour vous, Eric, à qui l'avenir appartient-il? À des groupes comme McDo, Coca qui sont en train peu à peu malgré tout de se transformer, ou plutôt un avenir qui appartiendrait à Eli Lilly, voire Novo Nordisk qui annoncera aussi ses résultats en fin de semaine?
C'est clair que les médicaments contre l'obésité, aujourd'hui, on le vend en poupe. Hein. On voit les évolutions de cours de bourse, on voit les croissances bénéficiaires, elles sont de plus de 40%, donc c'est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que les révisions sont en hausse. Hein. Donc, lorsqu'on regarde à la fois l'évolution du cours de bourse, les révisions de croissance bénéficiaire et on voit les publications, on voit bien qu'aujourd'hui, Eli Lilly remonte en fait ses guidance. Donc là, on a un vrai push, on manque de capacité de production et donc même si les titres sont très élevés aujourd'hui, la croissance est là et donc les titres remontent. Après une petite consolidation, elle y repart et je ne suis pas surpris. Entre McDo et Coca, c'est un peu différent effectivement puisque à la fois donc on a des cours qui ont quand même pas mal baissé pour les deux dans le même ordre, mais la différence c'est que il y a pas de révision bénéficiaire ni dans un sens ni dans un autre pour Coca-Cola jusqu'à maintenant. Là, on a un management qui relève ses guidance pour l'année avec des croissances de 7%. Donc, une publication qui est clairement bien prise et plutôt positive avec une croissance de 8 à 9% cette année. Et on se paye à peu près un PER de 20 fois, ce qui est l'équivalent de McDo. Sauf que McDo, malheureusement, il espérait aussi une croissance de l'ordre de 8%. Mais lui, il est mal orienté avec des révisions bénéficiaires, elle à la baisse et des déceptions. Donc clairement, ce qui se détache, c'est Eli Lilly et donc la gamme obésité, c'est clair. Et Coca-Cola maintient ses positions encore avec une capacité à profiter d'une consommation qui se rend bien aux États-Unis et un bon management. Donc c'est plutôt sur ces deux titres que je resterai.
Et d'ailleurs, c'est le choix du marché. Coca-Cola gagne 1% à Wall Street et là, Eli Lilly 6% désormais. En revanche, McDonald's, après sa publication, perd un peu plus d'1%. Avec en plus, on en parlait avec John Plassard tout à l'heure, le boycott croissant manifestement de ses produits. Boycott croissant des produits McDo au Proche et Moyen-Orient. Merci beaucoup Eric de nous avoir accompagnés. Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life, banque privée. Les taux remontent aujourd'hui, les taux obligataires, le 10 ans américain est à 4,67 après les chiffres d'inflation dans l'immobilier et un coût du travail qui progresse aux États-Unis. Ça met de la pression sur le marché obligataire américain, 4,67 pour le 10 ans américain par exemple. Mais Jean-Jacques Friedman viendra nous rassurer tout à l'heure dans la Data Room, ce sera à 17h25, ne ratez pas ce rendez-vous. Il nous expliquera que les performances de Wall Street depuis 1990 ont souvent été bien meilleures meilleur sur les années où les taux américains étaient élevés que sur les années où les taux américains étaient sous les 4% par exemple. Il viendra nous l'expliquer. Ce sera donc à partir de 17h25. Ce sera intéressant. Et puis ici en Europe, on peut en revanche se rassurer. L'inflation continue de ralentir. On en parlera avec Frédéric Ducrozet tout à l'heure. Les chiffres d'inflation tout à l'heure, ils ont été publiés ce matin. Ces chiffres d'inflation confirment effectivement un ralentissement, même dans les services désormais, ce qui pour le coup en Europe ouvre peut-être la voie à une, voire peut-être deux baisses de taux. On verra d'ici à l'été. Tout de suite, c'est Culture Bourse.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Pour savoir où vous allez en bourse, mieux vaut comprendre en effet où vous en êtes. C'est votre Culture Bourse quotidienne. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, si vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement, vous le savez désormais, vous avez deux options. Vous pouvez nous écrire à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Aujourd'hui, on va tous monter sur un yacht de luxe, un fabricant de yacht de luxe italien en l'occurrence.
Allez, on part en vacances et c'est Daniel qui s'interroge sur le titre The Italian Sea Group, une petite valeur qui pourrait peut-être vous permettre de jouer l'essor des yachts de luxe. Et bien on va voir ça avec Clémence de Rothiacob pour Richelieu Gestion. Bonjour Clémence.
Bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Clémence, quel regard vous portez sur ce titre qui a subi depuis mi-mars quelques vents contraires en bourse et qui évolue aujourd'hui autour de 9,60 €?
Alors, il conviendrait, pour commencer, déjà de remettre les choses en perspective. C'est un titre qui a très bien performé depuis son introduction en bourse mi-2021. Il a gagné un peu plus de 80%. Pour titre de comparaison, le stock 600 faisait 50% sur la période. Le titre a baissé dernièrement avec l'annonce de la vente de 8,7% du capital par son CEO et fondateur. Alors, le marché a pu y voir un signal négatif. C'est jamais très bien vu quand un actionnaire de référence prend des profits. Néanmoins, nous savions que cela allait arriver, car il ne cachait pas sa volonté de faire rentrer le groupe sur le segment star de Euronext Milan, lequel requiert un flottant d'au moins 35%, ce que le groupe a désormais avec cette vente sur le marché. Pour autant, cette vente a été, selon nous, le prétexte à un début de prise de profit de certains investisseurs qui s'inquiètent, il me semble, de deux choses. D'abord, de l'intention du groupe d'entrer sur le segment des yachts semi-personnalisés. Jusqu'ici, le précaré des deux concurrents italiens également, San Lorenzo et Ferretti. Donc, des craintes sur le succès de cette initiative, mais surtout, à mon sens, le marché s'interroge sur le risque d'exécution du carnet d'ordre parce que le groupe travaille sur un volume de projets qui est record. Il y a une très importante concentration du chiffre d'affaires sur quelques gros projets. Donc finalement, peu de place à des problèmes d'exécution potentiels. Donc le management est attendu au tournant pour exécuter les nombreux contrats qu'il a engrangés ces dernières années.
Et très rapidement, Clémence, qu'est-ce qu'on fait avec ce titre concrètement en portefeuille ?
Moi, j'aurais tendance à conseiller de conserver, voire de renforcer sur faiblesse, parce que finalement, après tout, jusqu'à présent, rien ne laisse présager des problèmes dans l'exécution des contrats, même s'il est vrai que dans le secteur, le marché a quand même tendance à valoriser davantage l'excellence opérationnelle de son concurrent San Lorenzo, dont le management est perçu comme le meilleur du secteur. Mais quoi qu'il en soit, des trois acteurs italiens à côté, The Italian Sea Group devrait délivrer la plus forte croissance cette année. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie qu'il affiche la meilleure performance boursière du secteur depuis le début de l'année. Il gagne plus de 15% quand les deux autres reculent. Ce que nous apprécions finalement, c'est son positionnement très haut de gamme. Ça le rend moins cyclique que les autres. Son très beau portefeuille de marque qu'il a acquis à des acquisitions qui étaient très ciblées et qui lui permet de faire des partenariats très réussis, notamment avec Armani ou encore avec Lamborghini. Donc c'est une valeur que nous conservons puisqu'on aime beaucoup la solide visibilité qu'elle offre.
Merci beaucoup Clémence. Clémence qui nous accompagnait en direct sur cette valeur italienne, fabricant de yachts de luxe, et puis Culture Bourse pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous apporter des clés techniques à travers notre portefeuille trading BFM Bourse, Julie.
Et nous avons un analyste pour ça, c'est Alexandre Tixier, l'analyste de ce portefeuille. Bonjour Alexandre.
Alexandre, êtes-vous là ? Alexandre est-il
là ? Oui, bien
sûr. Oui, vous êtes
oui,
là.
Oui, je suis là.
On vous entend.
Ravi de vous retrouver.
Et alors, on le rappelle, si vous voulez vous abonner, eh bien, il vous suffit de scanner ou de flasher le QR code qui apparaît sur vos écrans. Alors, Alexandre, un coup au-dessus, un coup en dessous. On reste autour des 8100 points très légèrement aujourd'hui. Comment vous expliquez, vous, cette résilience ? Et comment ça se traduit d'un point de vue technique au sein du portefeuille ?
En effet, hein, l'indice, il est particulièrement résilient, vous venez de le dire. Ce qu'on a perdu depuis le début du mois, c'est vraiment rien du tout hein, par rapport à l'avancée initiale. Cependant, moi, j'observe deux choses. Un niveau qui s'affirme assez progressivement en résistance graphique, c'est les 8120. Et un croisement imminent de moyenne mobile, donc c'est 20 jours et 50 jours. Et ça, effectivement, on l'avait pas vu depuis le 22 novembre. Donc, pas de stress, néanmoins, pour les investisseurs mobiles, hein, ceux qui font des allers-retours sur le marché, des couvertures ponctuelles s'imposent. Hein, je remarque notamment dans l'aérien, la tech ou le luxe.
Bien sûr, vous envoyez vos alertes aux différents abonnés, bien sûr, de ce portefeuille trading BFM Bourse. Il suffit de flasher ou scanner le QR code donc pour s'abonner. Est-ce qu'il y a un titre qui, techniquement, vous semble mériter des alertes plutôt positives pour la suite, Alexandre ?
Ah oui, alors c'est Wendel. On le proposait justement ce matin aux abonnés dans une étude graphique. Wendel, c'est une société qui a une très longue histoire, c'est un groupe d'investissement. C'est pas un pur asset manager, même s'ils ont lancé des services de gestion d'actifs l'an dernier. C'est une société de prise de participation pour compte propre. Là, l'action, elle est en hausse très puissante depuis début novembre de l'année dernière. On a l'appui des volumes, d'une moyenne mobile longue, et le titre, c'est intéressant, il profite pleinement du parcours récent de Bureau Veritas, puisqu'il faut le dire, Wendel détient plus du quart du capital de Bureau Veritas. Donc je répète, c'est Wendel le titre.
Merci beaucoup Alexandre Tissier, analyste de ce portefeuille BFM Bourse, et Julie Cohen-Horton, Culture Bourse, chaque après-midi. Merci Julie.
À votre service.
À demain pour de nouvelles aventures. Effectivement, le CAC 40 est en repli en ce moment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Cet article consacré à Stellantis, pénalisé par des déstockages, et l'Amérique du Nord, les ventes déçoivent. On en reparlera bien sûr dans la suite de l'émission, tout comme de Capgemini, sur lequel quand même Eric Blaine, qui était avec nous il y a un instant, est à l'achat. On en reparlera, on challengera ce titre Capgemini dans une poignée de secondes, et puis à la hausse quand même bien orienté cet après-midi, le titre Sanofi par exemple, il gagne 1,2%. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.